Laudetur Jesus Christus.
Le pape François décolle demain pour Chypre, première étape de son 35e voyage apostolique avant la Grèce. Un voyage, nous l'entendrons, consacré notamment à la thématique des migrations. Dans ce journal également, un rapport de l'Union européenne sur le noyautage des mercenaires russes de Wagner dans l'appareil militaire et exécutif de Centrafrique. Nous retrouverons notre correspondant à Bruxelles. Et puis dans notre dossier, direction la Bosnie-Herzégovine, confrontée à sa plus grave crise politique depuis la fin de la guerre civile en 1995. Éclairage ce soir avec Jean-Arnaud de Reims. Il est rédacteur en chef du journal Le Courrier des Balkans.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir. Demain, 15h, heure locale, le pape François sera sur le sol de Chypre. Il entame son 35e voyage apostolique qui le mènera également en Grèce. Une visite que le Saint-Père a évoquée ce matin lors de la traditionnelle audience générale. François parle d'un voyage aux sources de la foi apostolique et de la fraternité entre chrétiens de diverses confessions. L'opportunité aussi d'approcher une humanité blessée dans la chair de tant de migrants en quête d'espérance, a-t-il rappelé. L'accueil des personnes migrantes représente en effet l'un des défis les plus importants de la politique chypriote actuelle. La petite île de Méditerranée orientale est en première ligne des routes migratoires africaines et moyen-orientales. Federico Ribecchi est coordinateur du centre de migrants de Caritas Chypre. Il nous dresse ce soir un état des lieux de la situation et évoque les attentes des personnes exilées devant cette visite apostolique.
Chypre souffre pour le moment des flots de migrants, que c'est énorme, surtout par rapport à l'île, la capacité à la population de l'île. Chypre a le plus haut taux de migrants par citoyenne. Imaginez que quand j'ai commencé à travailler à Caritas, il y avait 1000 migrants enregistrés à Caritas en 2018. Maintenant, l'enregistrement à Caritas sont plus ou moins 10 000. Les Camerounais, ils ont été les premiers à créer une route migratoire de l'Afrique à Chypre. La majorité des migrants qu'il y avait avant, c'était surtout des Syriens, les Libanais, les Jordaniens. Et ça a eu des effets sur la société chypriote parce que quand même il y a beaucoup plus de proximité entre les Chypriotes et les populations du Moyen-Orient à cause de l'histoire. Les migrants africains, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. À mon avis, Chypre, le gouvernement de Chypre n'était pas prêt pour un flux énorme. Nous, en fait, on est en sorte de pont entre les migrants et leurs droits et les autorités. Le fait que le pape est en train de passer par ici, c'est une très bonne nouvelle. Beaucoup de migrants, ils sont très contents de cette visite. Surtout les migrants, ils voient Chypre un peu comme une île isolée, oubliée dans l'Europe. Le pape, il vient ici aussi pour donner un message au gouvernement européen quand il crée leur politique pour les migrants.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Et cet après-midi, comme le veut la tradition, le pape François s'est rendu à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans la capitale romaine pour prier la Vierge et lui confier son 35e voyage apostolique. Un voyage qui sera bien sûr à suivre sur nos ondes et déjà sur notre site internet www.vaticannews.va. La tension ne cesse de s'accroître à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken annonce que les États-Unis ont des preuves que la Russie envisage des actes agressifs contre l'Ukraine. Depuis plusieurs jours, la Russie masse ses soldats à la frontière ukrainienne, soutenant qu'aucun projet d'invasion n'est sur le tapis. Un rapport explosif de la diplomatie européenne sur la Centrafrique, publié ce matin, un texte de 35 pages affirme que les mercenaires du groupe russe Wagner ont mis la main sur le commandement d'une partie des troupes centrafricaines, en particulier d'unités formées par l'Union européenne qui déploie depuis juillet 2016 des instructeurs militaires au profit des forces armées centrafricaines. L'avenir de l'action de l'Union européenne en Centrafrique est donc incertain du fait de la présence des mercenaires de ce groupe Wagner, accusé de graves violations des droits de l'homme et de l'entrisme de la Russie dans les prises de décision à Bangui. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazet.
L'Union européenne a participé à la formation de 4000 soldats en République centrafricaine, mais son action est maintenant remise en question. La plupart des unités des forces armées centrafricaines, actuellement en déploiement, opèrent sous le commandement direct ou la supervision des mercenaires russes du groupe Wagner. C'est en particulier le cas du 7e bataillon d'infanterie territoriale, pourtant entraîné par les instructeurs de la mission européenne de formation militaire EUTM-RCA. Selon le rapport du Service européen d'action extérieure, la Russie joue un rôle ambigu et non transparent. Il y a d'abord la présence d'environ 2600 mercenaires du groupe Wagner, qui ont aussi pris en main la formation de certaines unités militaires centrafricaines. Il y a aussi l'intensification de la présence russe dans presque tous les domaines du gouvernement, la conduite de campagnes de désinformation, et enfin l'implication économique de la Russie dans les douanes, les mines et plus généralement l'exploitation des ressources naturelles. Peut-être ce rapport a-t-il fait l'objet d'une fuite savamment orchestrée pour accompagner les motivations juridiques des sanctions récemment décidées par l'Union européenne à l'encontre du groupe Wagner. Toujours est-il que la conclusion du rapport a été confirmée hier par les services de Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Si elle ne parvient pas à affaiblir l'influence de la Russie et du groupe Wagner, l'Union pourrait revoir le mandat de ses instructeurs, voire carrément les retirer de République centrafricaine. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
C'est un procès hors norme qui s'est ouvert ce mercredi au Brésil, celui de l'incendie de la discothèque Kiss en janvier 2013, durant lequel 242 personnes sont mortes. Quatre accusés comparaissent devant le tribunal de Porto Alegre pour homicide et tentative d'homicide. 26 ans après la fin de la guerre civile, la Bosnie-Herzégovine est confrontée aujourd'hui à sa plus grave crise politique. Depuis les accords de paix de Dayton en 1995, l'État bosniaque est divisé entre deux régions autonomes, avec la République serbe d'un côté et la Fédération croato-musulmane de l'autre. Et mi-novembre, le chef du parti séparatiste serbe, Milorad Dodic, a semé le trouble en annonçant le démantèlement d'institutions clés de l'État et la création d'une armée autonome. On écoute ce soir l'analyse de Jean Arnaud de Reims. Il décrypte les tensions dans le pays.
Il faut bien distinguer deux choses, les communautés qui existent et les partis politiques ethno-nationalistes qui s'arrogent le monopole de la représentation de ces communautés. Donc quand vous avez, mettons, M. Dodik, le dirigeant du parti nationaliste serbe qui dit quelque chose, il prétend parler au nom des Serbes, idem pour M. Čović qui prétend parler au nom des Croates.
À quel défi est confrontée la Bosnie-Herzégovine depuis la fin de la guerre en 1995 ?
Fondamentalement, les choses n'ont pas changé depuis 26 ans, depuis la conclusion des accords de paix de Dayton en novembre 1995. En réalité, le problème de ces accords, c'est qu'ils ont donné la clé du pays, de toutes ces institutions, à ces oligarchies ethno-nationalistes qui ont tout intérêt à maintenir les divisions du pays. Pour des raisons très simples. La Bosnie-Herzégovine, c'est deux entités dont l'une, la Fédération croato-bosniaque, compte 10 cantons. À cela se rajoute un district inter-entité, le district de Brčko. Tout ça, ça fait 13 gouvernements, 13 parlements. Donc une classe politique totalement pléthorique. Mais pas seulement par le nombre de députés, également le nombre de chauffeurs de députés, de secrétaires de députés. Ce qui veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui vivent directement de la politique et qui dépendent pour cela de ces partis ethno-nationalistes qui ont un seul intérêt, c'est que rien ne change. C'est ça le drame de la Bosnie-Herzégovine. Depuis 26 ans, on parle d'une réforme de ce cadre institutionnel totalement abracadabrantesque et monstrueux, surdimensionné, mais en réalité, ceux qui ont les clés d'une éventuelle réforme, à savoir ces partis ethno-nationalistes, n'ont aucun intérêt à le faire. Pour ces raisons, depuis 26 ans, le débat politique en Bosnie-Herzégovine est toujours focalisé sur les mêmes questions, cette impossible réforme du cadre institutionnel, le renforcement des compétences soit de l'État central, soit des entités, mais ce débat ne peut pas évoluer. De ce point de vue-là, la crise très grave que connaît aujourd'hui le pays n'est pas d'une nature radicalement différente des crises que la Bosnie a déjà régulièrement connues, même si elle est peut-être plus sérieuse que d'autres.
Le chef du parti serbe Milorad Dodik menace depuis des années de faire sécession. Pourquoi la menace de ces derniers jours est-elle perçue comme plus grave que d'habitude ?
Parler de la sécession, ça c'est ce que font ces ethno-nationalistes, notamment du côté serbe, de manière récurrente. C'est grosso modo, vous me donnez tout ce que je veux, tout ce que je demande, ou bien je fais sécession. De ce point de vue-là, vous avez raison, il n'y a rien de très nouveau. La différence, c'est que cette fois-ci, Milorad Dodik ne se contente pas de parler de la sécession. Par certains aspects, il a déjà engagé des gestes concrets qui ressembleraient à ce que l'on pourrait appeler une sécession rampante. La Republika Srpska, l'entité serbe du pays, a ainsi quitté plusieurs institutions communes. Jusqu'où peut-on aller ? Je crois que personne n'en sait rien, absolument rien. Le véritable enjeu, c'est que dans un an, il y a des élections générales qui sont prévues et ces oligarchies ethno-nationalistes commencent à se sentir menacées. Et leur réponse habituelle, naturelle, est de susciter une nouvelle crise. Le problème, c'est face à cette nouvelle crise, que fait-on ? Là, pour le coup, tout le monde est totalement démuni.
Voilà, interrogé par Claire Riobé, Jean-Arnaud de Reims, rédacteur en chef du Courrier des Balkans, était ce soir notre invité. Le prochain retour de l'information, c'est demain matin à 8h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée.
Thank you.